rendez-vous.
Rendez-vous?
Qu'est-ce que vous faites ce soir?
Ce soir?
Oui.
Rendez-vous?
Rebonsoir à toutes et à tous, c'est le NRV, la suite avec ce soir un débat à 3 mois pile du second tour de l'élection présidentielle qui aura lieu donc le 7 mai prochain. Oui, à 3 mois, les jeux sont loin d'être faits car tout arrive. Renoncement du président, émergence d'un nouveau mouvement politique en marche vers le centre, sortie de route aux primaires d'un ex-président, d'un ex-premier ministre et d'un premier ministre en exercice et au final, un casting de nouvelles têtes en campagne. Il y a celui qui souhaite à 39 ans réconcilier une France en n'étant ni de droite ni de gauche, celui qui à 49 ans incarne l'espoir d'une nouvelle génération à gauche et celui qui à 62 ans souhaite défendre une vraie politique libérale sans plan B. Macron, Hamon, Fillon, que peut-on attendre de ces nouveaux candidats à la présidentielle? Eh bien c'est le sujet du NRV ce soir et on en parle avec Romain Goupil, cinéaste. Bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Jean-Laurent Turbet, vous êtes blogueur, conseiller municipal de Levallois-Perret et membre du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Bonsoir.
Bonsoir Laurent.
François Bousquet, vous êtes écrivain, journaliste, notamment à Valeurs Actuelles. Vous venez de publier un livre sur Patrick Buisson, c'est ça ?
C'est exact.
La France buissonnière, qui vient de paraître aux éditions du Rocher. Bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, bonsoir à tous. Le nouveau rendez-vous, deuxième tour, à voter.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et vous, qu'est-ce que cela vous a inspiré, bon, ces trois noms?
Écoutez Laurent, là je suis vraiment inquiet, je suis embêté, je suis inquiet Laurent, faut qu'on se parle, ça va pas du tout, j'ai des doutes Laurent, j'ai des doutes et même j'y comprends rien Laurent, parce que selon tous les sondages, sortis en tout cas récemment, 88% des Français Laurent se prononcent pour un renouvellement du personnel politique, disent-ils. Donc ils rejettent tous les sortants, de François Hollande à Nicolas Sarkozy, tout le monde, il y a guère qu'Alain Juppé pour trouver grâce auprès d'eux, hélas pour Alain Juppé, la primaire l'a démontré, il est plus populaire parmi les Français en général que parmi les sympathisants de droite en particulier. C'est raté. Bref, c'est la curée, Laurent, vous l'avez compris, le tir au pigeon, la baltringue, le baltringue comme on n'a jamais vu. Alors, l'ennui, Laurent, c'est qu'il y a un hic, car selon toujours les sondages, si on demande aux sondés de désigner leur nouvelle tête favorite, ils restent sans voix. Et ils bégaient, ils bredouillent et ils finissent par citer deux vieilles têtes bien connues. Alors pour l'instant, la seule nouvelle tête qui surgit, c'est Emmanuel Macron. Alors c'est vrai, il est plutôt jeune, puisque comme vous le soulignez tout à l'heure, il est né le 21 décembre 1977. Il aura 40 balais cette année, bon, mais c'est quand même pas un perdreau de l'année. Alors cet ennemi du système a tout de même, en plus, été ministre de l'économie d'août 2014 à août 2016. Et puis alors maintenant, il y a le petit Benoît Hamon. Alors lui, il est né le 26 juin 1967. Donc il va sur 50 ans. En plus, lui aussi, il a été ministre, d'abord délégué à l'économie sociale, puis ministre de l'éducation. Bref, il a de la bouteille, le petit jeune. Alors, il n'empêche que le quadra et le quinca incarnent un indéniable renouvellement du personnel politique.
En tout cas, pour les présidentielles. Ouais.
Apparemment. Alors, même François Fillon, à sa façon, incarne le désir de renouvellement. Lui, il est né le 4 mars 1954, donc c'est un sexard. En outre, comme vous le savez, il a été Premier ministre de 2007 à 2012. Mais miracle pour lui, il est apparu dans la primaire de droite comme un outsider. Donc, alors là j'ai une formule, un incarnateur de nouveautés. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, oui. L'ennui, c'est que, c'est que le légitime désir de renouvellement nous entraîne aujourd'hui dans une invraisemblable série de chaos. En renversant les dominos Valls et Juppé, les électeurs ont-ils enclenché un processus catastrophique, démoniaque, une plongée vers le nadir? Alors, Romain Goupil, la trajectoire de Macron est presque magique. On dirait qu'il est porté par les bonnes fées. Et vous y croyez, vous, au président Macron?
Je crois, dans un premier temps, à ce qu'il peut discuter ou soumettre à la discussion. Il est assez cohérent. Il a dit « je ne veux pas me soumettre ». Il y a quelque chose qui est en train de changer fondamentalement dans le paysage politique national et international. Mm-hmm. Le modèle social français, il y a quelque chose de fracassé. Et il parle de quelque part. Il était ministre de l'économie, il était secrétaire général de l'Élysée. Et tout d'un coup, il démissionne. Donc, il donne un signe en disant « ça ne fonctionne plus comme ça et je fais de nouvelles propositions ». Donc, du coup, je suis attentif à ces nouvelles propositions et à ce qu'il va dire. Est-ce que, quand il dit « je ne participe pas à la primaire parce que ça représente les vieux appareils », je me mets en dehors.
Je quitte le système dont j'ai été un pilier.
Oui, c'est pas que je quitte le système. Il dit la façon dont les primaires vont choisir dans l'écurie, dans leur écurie de parti, ça reproduit de l'ancien. Donc on va essayer quelque chose de nouveau. De toute façon, cette primaire de gauche, elle était complètement rendu impossible par la position césarienne de Mélenchon, qui a tout de suite refusé en disant « Moi, ce que je veux », mais à l'époque, il pensait qu'il y avait Hollande, je veux me présenter face aux Français dans un rapport direct lié à la Ve République et au fonctionnement gaullien. Donc du coup, pour Macron, j'écoute. Je suis attentif et je suis attentif à ce fonctionnement, cette espèce de foisonnement bizarre qui est pas très très bien défini.
François Bousquet.
Dans ce casting présidentiel, c'est indiscutablement Macron, c'est la seule nouveauté pour autant, enfin fait du neuf avec de l'ancien, parce qu'il a tous les codes, en tout cas il a tous les codes scolaires, il a tous les codes professionnels, c'est l'inspection des finances, c'est l'ENA, en réalité c'est une tête, c'est un profil qui est très connu, c'est celui des directeurs de cabinet ou des secrétaires généraux de l'Élysée, donc c'est des gens qui gouvernent la France en sous-main, dans l'ombre, je m'entends, sans complotisme derrière ce mot ombre, depuis une trentaine d'années. Donc peut-être qu'on fait du neuf avec de l'ancien et peut-être que c'est tout change pour que rien ne change avec Macron. Il y a des codes absolument nouveaux, mais enfin qui sont nouveaux que pour nous, entre autres le code conjugal. Hein. Donc il est avec une femme beaucoup plus âgée. Mais si vous vous rappelez au XIXe siècle, dans le monde de la bourgeoisie, c'est très fréquent. L'éducation du monde dans Balzac passe par ce type de médiation féminine. Hein. Donc moi je suis assez sceptique sur la nouveauté 1 de Macron et sur la dimension révolutionnaire ou pré-révolutionnaire, en tout cas inédite de ce qui est en train de se produire.
Il y a un aspect nouveau quand même, François Bousquet. Nouveau... C'est la nature de ce mouvement En Marche. Alors on peut dire que ça ressemble un peu à un baril de lessive, mais c'est une sorte de réseau, ce n'est pas un parti traditionnel.
Ségolène l'avait un petit peu fait en 2007, hein, sous une forme un peu différente. Hein. Et après tout, Macron, c'est un profil, il y a des antécédents qui sont connus pour nous. Même si je me répète, c'est quelque chose, il est neuf, en tout cas il apparaît comme un homme neuf. Hein. Mais ça évoque pour nous VGE, JFK, enfin tous les grands acronymes, Jean-Jacques Savoie-Schreiber. Hein. Donc c'est des profils qui sont assez connu. Là, jusqu'à présent, il n'est pas sorti de l'ambiguïté. Il faudra sortir de l'ambiguïté, à ses détriments, évidemment, quoi. Est-ce que...
Sortir de l'ambiguïté, ça veut dire quoi?
Eh bien, s'afficher au centre, à droite, au centre gauche, à centre droite.
Oui, mais justement, il refuse ça. Pourquoi devrait-il s'afficher alors que c'est même son combat de n'être ni à gauche ni à droite, c'était son discours, mais d'être tout simplement français, oui? Jean-Laurent Turbet.
Ou plus exactement, et à droite et à gauche, ce qui est un positionnement un tout petit peu différent. Mmh. Et en tous les cas, Emmanuel Macron en héros balsacien, ça me va très bien. Et c'est vrai que le cardinal de Retz disait qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Et donc, en effet, le moins longtemps il en sortira, enfin, si tant est qu'il y ait ambiguïté, le mieux ça sera. Mais en tous les cas, je pense que Emmanuel Macron a déjà saisi quelque chose, et peut-être parce que son mouvement, chose qu'on n'a pas vue, alors là, qui était dans l'ombre, mais pas dans l'ombre, c'est que il a lancé son mouvement, et avant de lancer son mouvement, il a lancé à la rencontre de l'opinion des centaines et des centaines de jeunes marcheurs qui sont allés faire du porte-à-porte pour aller écouter les Français. Alors, on a beaucoup rigolé de ça au début, en effet. N'empêche qu'il avait une base de données et des renseignements à nul autre pareil, j'allais dire, parce que chacun faisait sa campagne dans son coin en s'occupant de son petit parti, etc. Et lui avait des renseignements et avec cette vision et avec peut-être cette analyse en disant que une primaire de droite, ça se gagne à droite. Une primaire de gauche, ça se gagne à gauche.
J'ai cru que vous alliez dire ça se perd à gauche.
Et non, ça se gagne à gauche. C'est Hamon qui a gagné. Et c'est Fillon le plus à droite qui a gagné. Et donc, Macron, je pense, a eu cette préscience, ou en tous les cas, ce pressentiment que c'est là qu'il fallait à la fois à droite, à la fois à gauche. Et c'est vrai, en surfant, enfin en tous les cas, en faisant sienne, le rejet des partis traditionnels, ouais, c'est clair.
Ce qui était nouveau aussi pour ce candidat, c'est qu'il a démenti le fait qu'on disait toujours on ne peut pas se présenter sans avoir un parti derrière. Ça ne marchera pas parce qu'il n'a pas de parti, c'est ce qu'on entendait d'abord au départ.
Justement, c'est qui ces marcheurs? Quand vous nous dites qu'il y avait des marcheurs qui sont allés à la rencontre des Français, c'était des militants du Parti Socialiste, c'était qui?
Et non, justement. Alors,
Jean-Laurent Turbet.
Oui, pardon. Et non, ce sont des gens qui viennent vraiment de la droite, de la gauche et surtout de nulle part, j'allais dire. Dans toutes les réunions de Macron, ce qui frappe tout le monde, ce qui frappe ceux qui viennent de la gauche ou de la droite, c'est de voir que dans les meetings, il y a les trois quarts des gens que personne ne connaît, ni ceux qui sont à gauche, ni ceux qui sont à droite.
Des abstentionnistes ?
des abstentionnistes, des jeunes, de tout ce que vous voulez, des gens en dessous
des cas. Des jeunes, il y en a beaucoup.
Des moins jeunes, droite, la preuve, je suis pas... j'ai 52 ans, donc j'ai pas non plus 18 ans, mais enfin, des gens de tous horizons...
Ce serait surprenant, enfin, j'ai pas les chiffres des sondeurs, qui est tant d'abstentionnistes que ça. Enfin, c'est plutôt la France périphérique, l'abstention. Peut-être plutôt des gens qui n'étaient pas encartés, qui n'avaient pas un profil militant, dans des structures partisanes.
Il y a pas mal de socialistes, j'ai l'impression.
En tout cas, ils vont récupérer, puis il en récupère quelques-uns qui nous ramènent en 1980. Tout ça, c'est pour. C'est facile. Certes, c'est facile, mais c'est pour montrer
le. Vous parlez des gens comme Alain Minc, Bernard Kouchner et Pierre Berger,
oui,
c'est ça?
Oui, Berger, voilà, on dirait des statues de cire. C'est impressionnant de les voir en rangée d'oignons, là. Bon, enfin, c'est facile, je vous le concède. Moi, simplement, tout nous invite en ce moment, tant les électeurs s'acharnent à déjouer les pronostics des sondeurs, des éditorialistes, enfin, des journalistes, à se méfier du phénomène Macron, puisqu'on est. Rappelez-vous, il y a 6 mois, Juppé était président. Il y a un mois, Fillon était président. Il y a un mois, c'était acquis. Hein. Et aujourd'hui, c'est Macron. Donc il y a une très grande volatilité du corps électoral. Moi, je pense que c'est cette volatilité, instabilité du corps électoral qu'il faut interroger.
Cela dit, c'est pas si volatile que ça. C'est nouveau. On ne comprend pas. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est réel. Ces réunions de jeunes ou de moins jeunes, de gens pas encartés ou de gens qui voulaient plus faire de la politique de la même manière ou qui voulaient plus obéir à un système vertical de militantisme ou de fonctionnement, du porte-à-porte et tout le monde ricanait. Mais grosso modo, ils réapprennent différemment le rapport à la politique, le rapport aux gens, le rapport à ce qu'il y a.
Mais
pourquoi chercher quelqu'un ou critiquer en disant il n'est pas si nouveau que ça? Mais imaginez qu'on amène quelqu'un qui ne sort de nulle part et qui prétendrait gouverner la France. Expérience et François son Bousquet. Fonctionnement...
Non, mais je n'ai pas la religion de la nouveauté. C'est la religion de la compétence, de l'excellence, si on veut, mais la nouveauté pour la nouveauté... Non, enfin, d'autant que j'ai montré, me semble-t-il, que, enfin, c'est en réalité, si on sort les sortants, mais on sort pas ceux qui sont sortis au tour précédent. Il est quand même passé par Bercy, il est quand même passé par le secrétaire général de l'Élysée. Et je me répète, il y a tout le background, inspection des finances. Enfin, il est dans les grands corps d'État, il est dans la très haute fonction publique. Il est à la place des gens qui nous gouvernent depuis 30 à 40 ans. Donc, je nuance simplement le phénomène nouveau. Je nie pas l'engouement populaire. Simplement, je dis sur cet engouement populaire qu'il n'est pas sans rappeler la campagne de Ségolène Royal en 2007, qui était une campagne participative.
Est-ce qu'il n'y a pas un côté, alors je vais dire une horreur sans doute, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté Raymond Barr chez Emmanuel Macron? Est-ce que ce n'est pas un Raymond Barr jeune?
Alors là, cette analyse est vraiment formidable.
Jean-Laurent Turbet. Par contre, moi, j'aurais peut-être dit plus Michel Rocard. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais jeune.
Alors quelqu'un pense d'autre à Mendès France aussi.
Oui, ouais. Mais Michel Rocard avait créé des clubs forums pour les jeunes et les clubs convaincre.
C'est vrai.
Pour les adultes qui étaient justement des clubs où se réunissaient des gens de droite et de gauche pour essayer de réinventer un nouveau projet de société. Alors peut-être que les filiations, c'est peut-être Mendès, Chaban, Delors, Rocard. Et c'est vrai que Macron dit, en effet, ce qu'on est en train de faire, ça n'a jamais marché jusque-là. Mais nous, on va le faire marcher. Et ça va marcher avec nous. C'est un pari, hein. Mais en tous les cas, juste deux petits chiffres pour nos auditeurs. Il y a plus de 185 500 membres d'En Marche aujourd'hui.
Ah oui,
dans les Hauts-de-Seine, qui est le département où je suis, il y a plus de 11 000 membres. C'est-à-dire que ça talonne les Républicains dans un des départements les plus forts des Républicains. Et moi, dans ma ville de Levallois, il y a 660, parce que ça m'appartient pas.
Si, vous voulez, vous appartient.
Non, non, rien du tout, ils m'appartiennent pas du tout. Il y a 660 adhérents, donc ce qui est énorme pour des villes et des départements comme les nôtres.
Puisqu'on brouille les pistes avec Macron, et bien on continue de brouiller les pistes. Ils sont deux garçons, deux îles cachés derrière un pseudo féminin Heure, avec un album entièrement dédié à vous les femmes.
All I need is 5 minutes if you can see the side. All I need is 5 minutes if you read between the lines. One for the eyes and one for the voices. One for the touch, one for the soft grin, and then the kisses. And then the kisses. All I need is 5 minutes. All I need is 5 minutes.
5 minutes to start the ignition. All I need is your look to hang my imagination. All I need is your view to picture your position. We could get away, ride horses, sail on the bay, drink from the sources, and then the kisses, following courses. Like a butterfly effect, one dip of a cigarette, mistakes don't regret. All I need is 5 minutes, like a drug side effect, like a ride on a rocket, the love you don't expect. All I need is 5 minutes.
Five Minutes n'est même pas le temps de leur chanson. La chanson signée Heure en concert le 11 avril à la Gaîté Lyrique à Paris et au Printemps de Bourges le 20 avril.
Moi j'ai de l'amitié, du respect pour Benoît Hamon.
Le nouveau rendez-vous.
Je pense qu'il reflète une sensibilité forte d'une gauche très interventionniste.
Sur France Inter.
Qui est très redistributive. Là où j'assume de davantage défendre en effet les libertés et la capacité à produire.
Je pense qu'il nous complique considérablement la tâche, et qu'il se la complique à lui-même aussi. Parce que la réalité de diviser la gauche, même quand on se dit ni droite ni gauche, mais qu'on séduit en partie à gauche, je pense que la gauche survivra à Emmanuel Macron.
Entre nouvelles têtes et extinction de voix, quels sont ces nouveaux visages de la présidentielle? C'est le sujet du Énervé ce soir. On en parle avec François Bousquet, journaliste à Valeur Actuelle, Romain Goupil, cinéaste, Jean-Laurent Turbet du mouvement En Marche. On entendait à l'instant les voix des candidats, hein, Macron, Hamon et Mélenchon. Quel espoir, quel renouveau Hamon incarne-t-il pour la gauche, puisque l'on parle aujourd'hui, maintenant, de Benoît Hamon, qu'il était question d'Emmanuel Macron il y a quelques instants. Qui commence?
Romain Goupil.
Romain Goupil.
Sur Hamon, je crois que celle qui donne la clé, et beaucoup de fans vont donner la clé de cette histoire-là, c'est Madame Hidalgo qui vient à la tribune dimanche à l'investiture de Benoît Hamon, qui dit on était très désarçonnés, le PS était un peu perdu, et tu redonnes des couleurs au PS, au Parti Socialiste. C'est-à-dire que il semble que Hamon, par ses propositions, par le fait qu'il est rejoint par énormément de jeunes autour de MJS ou des réseaux qu'il a, mais sur ses propositions, c'est-à-dire les propositions de légalisation du revenu de base minimum, des perturbateurs endocriniens, il a proposé une autre façon en répétant en permanence dans tous les débats de la primaire. Mais vous êtes des comptables. Vous me demandez sans arrêt comment ça va être financé. Mais moi, je suis comptable de l'avenir.
Mais est-ce que c'est pas profondément réactionnaire? Est-ce que c'est pas finalement, est-ce qu'il n'est pas le tributaire d'une archéo-gauche qui aimerait revenir à 1981 alors qu'on est en 2017?
Alors, disons que cette archéo-gauche, les éléphants du PS ont été balayés par l'histoire, et que maintenant on a les éléphants du PS, c'est-à-dire qu'on aurait Hidalgo, on aurait Madame Taubira et on aurait Martine Aubry, qui ont adoubé Benoît Hamon comme la possibilité de renouveler l'appareil. Est-ce que Hamon va être capable de casser ça en disant non, la dynamique, et je reste sur mon programme, et la dynamique entraîne un nouveau parti socialiste? Il est dans une position où il essaye de gagner les présidentielles, ça rend la manœuvre un tout petit peu compliquée. Il a été obligé d'aller voir Cazeneuve, d'aller voir Hollande, de voir les parlementaires du PS et de faire un meeting où ils citaient les uns après les autres tous les caciques du PS pour essayer de rassembler le PS et de gagner la présidentielle.
François Bousquet.
Oui, alors il y a une dimension en effet paléo-gauchiste chez Hamon, mais c'est pas le plus frappant. Le plus frappant, c'est qu'il sort vraiment de nulle part. Moi, je trouve que c'est lui la surprise. Autant la montée en puissance de Macron se déploie sur 6 mois, 1 an, la sortie du gouvernement, les choses semblent préparées. Vraiment, il sort du diable Vauvert. Il sort de nulle part. Il était totalement inattendu. Et il ressuscite, pour combien de temps? Ça, c'est la concurrence entre Mélenchon et lui vont nous le dire. Là, il profite d'un effet d'aubaine, l'effet d'aubaine des primaires, donc d'un appel d'air qu'il fait grimper dans les sondages. Est-ce qu'il va se maintenir à un niveau suffisamment élevé et puis grignoter Mélenchon? On va voir. Mais donc, à une combinaison de paléo-gauchisme, et ça correspond aussi à la nouvelle sociologie électorale du Parti Socialiste. Les perturbateurs endocriniens, le bio, etc. À droite aussi, on est pour. Je veux dire, la question n'est pas là. Mais c'est que ça correspond vraiment à une nouvelle sociologie urbaine. Et ce revenu universel, étant intéressé à toutes les alternatives écologiques, c'est pas seulement une mesure des libéraux. Les libéraux portent le revenu universel. C'est aussi une mesure des décroissants et des branches radicales de l'écologie. Pour autant, on est en droit de s'interroger quand on vit dans la France périphérique. Est-ce que c'est pas la gestion du sous-emploi à laquelle est réduite cette France périphérique?
En gros,
les intégrer à la mondialisation, c'est les thèses de Guillouis. En réalité, Guillouis fait une critique très sévère du revenu universel dans son dernier bouquin, implacable, me semble-t-il. Et c'est quelqu'un qui a plutôt défendu la thèse du revenu universel.
Jean-Laurent Turbet.
Il y a une ambiguïté, Jean-Laurent Turbet, c'est que au fond, il y a énormément de militants socialistes encartés qui aujourd'hui militent dans le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron, tout en étant socialistes. Puis des socialistes, le maire de Lyon, des gens importants, des hiérarques du Parti Socialiste. Est-ce que finalement, Hamon, en réduisant peut-être le Parti Socialiste à sa partie la plus archéo, ne risque pas de régner sur un petit parti un peu post-marxiste à côté d'une structure floue qui serait En Marche?
C'est-à-dire que oui, En Marche est quand même un mouvement dont on voit bien la dynamique, l'attrait, la nouveauté, la modernité, les propositions, etc. Hamon, c'est pas quand même si imprévu que ça. Hamon, c'est celui qui a le plus de réseaux structurés. C'est la gauche du PS depuis tout le temps. Excusez-moi l'expression, il a été le président de l'école du vice, c'est-à-dire du MJS, c'est-à-dire ce qui apprend aux jeunes à commettre les mêmes turpitudes que les aînés, mais plus jeunes. Mais ça crée vraiment des réseaux. Je crois qu'il faut retirer. Il faut retirer le MJS ou des trucs comme ça, parce que c'est vraiment, enfin bon, bref. Mais c'est pas si imprévu que ça, Hamon. Surtout qu'il trouve ce qui parfois plaît à la gauche. C'est des trucs qui font mouche pendant 3, 4, 5 ans où tout le monde phosphore dessus. Et un jour, tout le monde s'en fout, on passe à autre chose.
Vous pensez à quoi?
À l'autogestion, par exemple. On a phosphoré pendant, je sais pas, 5-10 ans sur l'autogestion. Il y avait des projets autogestionnaires jusqu'au jour où quelqu'un a dit, oh, bah, tiens, en fait, on s'en fout, on laisse tomber et on passe à autre chose. Et plus personne n'a parlé d'autogestion. Ben, je pense que le revenu universel, ça fait partie. Mais tous les 5, 6 ans, 10 ans.
Un gimmick, selon
voilà, on invente un concept, on invente un truc qui fait phosphorer, qui maintient l'attention pendant un moment, jusqu'au jour où on dit, au fait, on s'en fout, on passe à autre chose, et on passe à autre chose.
Il y a dans cette histoire d'autogestion, effectivement, ça fait penser à la mise en place de liquidation de la SFIO et mise en place du PSU. Grosso modo, on pense à ça. C'est pour ça qu'il réjouit toute une partie de la gauche complètement désorientée, complètement déboussolée.
Désorientée, déboussolée par rapport à ce qui s'est passé pendant le quinquennat de François Hollande, d'accord.
Et tout d'un coup, on se dit, Hamon était à la tête de la motion de censure. S'il y avait une voix de plus, il y avait une motion de censure de gauche contre un gouvernement de gauche. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que ça déstabilise tous les gens qui ont voté avec la majorité assez confortable, pour François Hollande. Ils ont complètement déstabilisé par la déchéance de nationalité, la loi El Khomri, par tout ce qu'on l'affaire Cahuzac, enfin toutes les affaires qui font qu'il va y avoir chose tout à fait incroyable, le renoncement de celui qui portait cette politique à essayer qu'elle perdure et de la gagner sur un deuxième quinquennat. Donc les gens sont perdus et lui, il renoue Hidalgo, Taubira, Aubry, qui était avant dans la première, avec enfin une gauche de gauche. Alors, est-ce que c'est la gauche de gauche pour faire le PSU ou le Parti Socialiste Frondeur, un PSF, qui se mettrait en place, sauf qu'il y a la présidentielle. Et la présidentielle, c'est un parti où il y a 30 000 élus, et là, on rigole pas avec ça, ou ils vont pas le laisser rigoler avec ça très longtemps.
François Hollande, va-t-il le soutenir, d'après vous? Comment vous regardez?
Je suis pas dans les...
Je ne vous demande pas des prévisions, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez que François Hollande pourrait le soutenir, sans savoir,
c'est pas un pronostic. Il semblerait que Ségolène Royal n'en prenne pas le chemin. C'est à voir. Simplement, on est rentré dans quelque chose de tellement instable, qu'on peut pas, on navigue vraiment à vue d'œil, comment dégager des perspectives et tracer des perspectives immédiates,
On pourrait tracer des perspectives complètement géniales en disant on est en train de se faire avoir complètement par les sondages, puisque c'est critiquer les sondages et tout, en disant le deuxième tour, ce qui serait parfait pour faire avancer le débat, pour faire avancer la discussion et pour que ça continue sur quelque chose qui n'était pas inintéressant dans les primaires, qu'il y ait un deuxième tour Macron-Hamon et que hors Marine Le Pen.
Alors là c'est de la science-fiction, non?
Mais puisque on s'amuse sur les trucs imprévus, c'était
Trump était imprévu.
Le Brexit, la veille du Brexit, c'était 52, mais 52 contre le Brexit. Et le lendemain, on a tous été sur.
Oui, mais à force de s'exciter sur tous les candidats, on a l'impression que l'imprévu, ça sera véritablement Marine Le Pen, puisque plus personne n'en parle actuellement. On va revenir sur le troisième cas. Ça va être Fillon dans quelques instants.
Laurent d'Espérance.
J'ai de l'or, tout plein le corps, plein les bras, sous les doigts, dans le ventre et encore. C'est de l'or. Thank you.
J'ai de l'or, c'est le genre de confession qu'il vaut mieux chanter que dire en ce moment. Le duo parisien High Cowboy l'a très bien compris dans le NRV.
Plan B, on a vu qu'il n'y en avait pas.
NRV.
D'abord, aujourd'hui, François Fillon est candidat, et donc pour moi la question ne se pose pas.
Plan B, c'est plan B Résina.
Je ne serai pas le plan B.
Entre des nouvelles têtes et d'autres qui s'entêtent, quels sont les nouveaux visages de la présidentielle? C'est le nouveau sujet du NRV ce soir et on en parle avec Romain Goupil, cinéaste, Jean-Laurent Turbet du Mouvement En Marche, François Bousquet, journaliste à Valeurs Actuelles. La riposte de François Fillon, parce que donc après Hamon, après Macron, le tour de François Fillon. Donc sa riposte hier qui balaye d'une main un plan B pour le remplacer. Comment vous l'avez perçu,
François Bousquet? Fillon. Un point presse, il va en faire un toutes les semaines, il coule à pic, c'est une dynamique, c'est une spirale négative qu'il n'arrive pas à endiguer. Il fait un point presse avec des gens qui sont très populaires au sein des appareils, certes, mais pas au niveau de la base. Hein. On a vu Barouin, Nathalie Kosciusko-Morizet, enfin bref, des gens qui sont conduits à le faire perdre. Hein. Et il menace de ramener, enfin, pour vous dire à quel point l'élection est curieuse, inédite, enfin, on partage tous le même constat, c'est qu'il y a 6 mois, l'élection était imperdable pour la droite. Hein. Donc désormais, on parle d'une possible victoire de Macron, sous réserve que d'un changement à venir. Donc il est en train de ramener, j'ai consacré un bouquin à Buisson. La stratégie de Buisson, c'est désenclaver sociologiquement la droite, en gros.
La droite buissonnière.
La droite buissonnière, c'est
Patrick Buisson, la primaire de la droite a enfermé Fillon dans une base sociologique très restreinte. Jadis, Malraux pouvait dire du gaullisme que c'était le métro à l'heure de pointe. Ouais. Aujourd'hui, le fillonisme, ce n'est plus que le Rotary à l'heure de l'apéritif.
Voilà, donc des deux versants de la ligne Buisson, c'est-à-dire en gros, dont l'électorat populaire de la France périphérique, décrite par Guy Lui, il est totalement évacué, il hors champ, il hors cadre, Fillon ne l'envisage pas, donc il a fait une bonne campagne de primaire, la primaire s'est désintégrée, plutôt la France conservatrice, plutôt la France catholique.
Il a fait le plein de ce côté-là.
Il a fait le plein, quoi, mais il faut faire le plein ailleurs. Hein. Donc il est en train de ramener la droite à un étiage de l'étiage chiraquien, à 20%. À 20%, est-ce qu'on est au second tour en mai 2017? Pas sûr.
Hein. Oui, mais là, on parle de avant. On fait comme si il s'était rien passé, mais il s'est passé quelque chose où de cette conférence de presse hier, il a bien signifié à tout le monde qu'il y a eu réellement un problème, que ça campagne et tout ce que vous venez de dire devenait complètement inaudible. Il a été absent alors qu'il y avait ce grand week-end avec tous les autres candidats. On n'a absolument pas entendu. Et là, il a signifié à tout le monde qu'il n'y avait pas de plan B. C'est clair, je suis incontournable. Mais incontournable pour aller où?
Parce que là, tout glisse sur lui. Je veux dire, il avait fait le même coup avec
Copé.
Non,
je pense pas du tout. Je pense que ça a glissé à peu près sur les journalistes et sur les responsables des différents partis qui ont pris la parole. Mais dans la population, autour de ces meetings, dans ces meetings même, où les gens qui sont interrogés en micro-trottoir, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont absolument révulsés c'est le seul à pas être au courant qu'il y a quelque chose qui s'est fracassé.
C'est la configuration de l'autisme. Et il avait fait le même coup avec Copé. C'est-à-dire qu'il s'enferme jusqu'au bout de l'échec. Il s'enferme jusqu'au bord du gouffre. Hein.
Comme s'il n'était pas au courant de ce qui se passe.
Et c'est le syndrome. On est confronté une fois de plus au syndrome Balladur. Je ne fais pas de campagne. J'ai un programme. Hein. Et j'ai un programme. Mon diagnostic est simple. Vous le connaissez. L'État est en faillite. Hein. Donc je suis un syndic de faillite. Je suis un commissaire aux comptes. Hein. Il ne va jamais se faire élire là-dessus. La France majoritaire, donc on le sait depuis les travaux de Guy Lui, j'insiste parce qu'ils sont centraux, me semble-t-il.
C'est vrai.
Cette France majoritaire est sous-représentée, n'est pas représentée et a été évacuée par Fillon. Je veux dire, il conduit en tout cas les Républicains. On arrive peut-être à la situation très étrange, hein, c'est que les deux partis centraux qui ont imposé les primaires se sont retournés contre ces partis, risquent de ne pas être au deuxième tour. Ce serait vraiment une configuration absolument inédite sur la cinquième. Hein. On n'en est pas là.
Enchaînement catastrophique incroyable. Ouais.
Jean-Laurent Turbet.
Ah oui, alors c'est clair, il n'y a pas de plan B, mais il y a un plan F. C'est le plan faillite pour les Républicains. Avec Fillon, ça saute aux yeux. Voilà. C'est comme voilà. Alors il faut pas évidemment crier victoire. Il a des ressources. Il a des militants qui se disent voilà. Le message qu'il leur a passé, c'est vous savez tous ce que j'ai fait. Vous connaissez la réalité des faits. mais sans moi, c'est le chaos, donc...
Et lui ne s'estime pas coupable. Lui dit, j'ai aidé ma famille a travaillé pour moi, a fourni un vrai travail. Tout est là, parce qu'on a le droit légalement de faire travailler son fils ou sa femme.
Non, mais Christophe, Christophe Bourset, il avait décroché avant les emplois fictifs. Il a décroché quasiment au lendemain de son élection. C'est ça qui est presque fascinant.
L'histoire sur la Sécu.
La Sécu, tout d'un coup, le programme, les 500 000 fonctionnaires, on a commencé à en parler. La campagne dans l'entre-deux tours de la primaire lui a fait beaucoup de mal, puisque Juppé a mis sur la table le programme économique. Et puis il est apparu que derrière, il y a le MEDEF dans la version version Baron Seyer. C'est-à-dire que ce sont les assureurs qui ont pris le pouvoir.
Pourquoi on perd notre temps, disons, Fillon, candidat fictif.
C'est vraiment ce F. C'est vraiment le F de la fin, c'est pas possible. Pour Henri Guénaud, député donc dans les Yvelines, il y a une immense partie du corps électoral qui ne veut pas choisir entre Macron et Le Pen. Cet espace politique n'est pas occupé, il ne l'était même pas par François Fillon avant cette affaire, parce que son programme est trop loin du centre de gravité sociologique français.
Oui, bon, alors on est tout à fait d'accord sur le constat avec Guénaud. C'est ce que Buisson a pu appeler la droite hors les murs, c'est qu'il y a un immense espace politique. Je dirais pas qu'il va de Macron jusqu'à Marine Le Pen, mais en tout cas, il va de Laurent Wauquiez jusqu'à Marion Maréchal Le Pen, et qui est inoccupé, qui pèse 10, 15, 20%, que sais-je. La nature politique a horreur du vide. Donc aujourd'hui, il y a un vide ponctuel, factuel, réel. Donc on en prend acte. Mais le système politique va susciter forcément un candidat, ou un candidat va prendre la mesure qu'il y a un réservoir de voix suffisamment important, et par opportunisme ou par adhésion, s'imposer dans cette droite, ce qu'on appelait la droite hors les murs. Mais aujourd'hui, elle n'est pas représentée. Et je trouve que le plus grave, moi, aujourd'hui...
Christine Boutin l'a représentée peut-être à un moment, non ?
Mais de manière très marginale.
Et Poisson. Contre le mariage gay.
Mais ce qui est vraiment fascinant, dans la crise que nous traversons, c'est une crise de régime, sauf que cette crise de régime est installée depuis 15 à 20 ans en France. C'est une crise de la représentation politique. Il y a toute une partie de la population qui est sous-représentée ou qui n'est pas représentée. Sous-représentée, c'est le Front National, désolé messieurs, deux députés, deux ou trois sénateurs, et non-représentée, c'est le principal parti de France, le parti des abstentionnistes. Donc il y a une énorme crise, c'est ce que Taïeb appelle, il y a une demande d'hyper-démocratisme. Il y a une demande non pas de démocratie participative, c'est un joujou, moi je pense, en tout cas Ségolène Royal nous l'a prouvé en 2007, que la participation, c'est très beau sur le papier, mais ne participe que les inclus, jamais les exclus. Il y a une demande populaire de démocratie référendaire, mais les élites n'en veulent pas, puisque c'est bonapartiste, démagogique, plébiscitaire.
Bon, j'étais assez d'accord avec Patrick Buisson quand il disait que les primaires étaient le retour du suffrage
censitaire.
D'où la réussite quand il y a la condamnation et l'appel à une 6e République, à la fin de la 5e République, que ça soit Macron ou Hamon, ils se sont rendus compte intuitivement qu'il y a quelque chose qui dysfonctionnait dans le fonctionnement des institutions.
C'est Mélenchon qui le porte et Montebourg dès le premier.
C'est ça, ils le sentent quelque part, qu'il faut remettre à plat le fonctionnement. C'est sûr que ça passe maintenant obligatoirement par un vote proportionnel et par des majorités de coalition sur des projets. Il faut complètement changer ce système, parce que là, il est en train...
C'est en train de se déliter. Simplement, il y a une très grande résilience dans les catégories populaires, puisque il y a des motifs légitimes d'exaspération, de colère, de révolte, puisqu'elles ne sont pas représentées. C'est vraiment le grand angle mort. Pour autant, cette révolte ne débouche sur rien, sur des votes populistes. Vous parliez de coalition, moi presque, la lecture que je fais de Macron, c'est un peu la réponse du système. À la poussée des populismes.
Il y a Mélenchon
Populismes de droite et de gauche. Mélenchon, populisme de gauche. Oui. Mais Podemos en Espagne, en Grèce, des populismes de gauche. Simplement, le système est peut-être en train de créer des coalitions à l'allemande, qu'on a évoqué là tout au long de l'émission, et dont Macron serait l'incarnation française.
Pourquoi mais ces prises de position là ce soir c'est par rapport pour moi à l'Europe, aux prises de position qu'a Macron sur l'Europe et que a Hamon sur l'Europe, c'est-à-dire sur des candidats qui sont anti-souverainistes, anti-Mélenchon, anti-Marine Le Pen. Et la discussion entre eux sur donner plus de souveraineté ou reconnaître une souveraineté européenne, de construire l'Europe, voilà quelque chose qui aussi change, bouge, fait bouger les lignes et peut les bouger. Il y a quelque chose de tout à fait intéressant dans cette approche.
Le mot de la fin avec Jean-Laurent Turbet. Vraiment le mot de la fin.
Merci. En très clair, oui. ce que propose Macron, c'est de réunir des gens sur des projets. Et si vous voulez, à gauche, le problème quand on dit il faut réunir de Macron à Mélenchon, sur quoi ? Alors qu'au moins, Macron propose une cohérence, en effet, sur l'Europe, sur l'économie, sur le libéralisme, le social et l'humanisme.
Eh bien, merci. Merci à vous trois. Merci François Bousquet. Je rappelle que le livre « La droite buissonnière », tout ce que Patrick Buisson n'avait pas encore dit, vient de paraître tout juste aux éditions du Rocher.